cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeodard, le 26 octobre 1995.
Je reviens un instant sur la question de la découverte de la nature, de la phusis. N'oublions pas la position d'Aristote. Et nous sommes, nous, dans une position très différente. C'est toujours intéressant, ça, parce que on fait la philosophie dans un certain contexte. Ça, c'est sûr. Et on est dépendant, d'une certaine manière, de ce contexte. Ce contexte ne détermine pas, mais oriente. Oriente. Mais c'est comme être né sous telle étoile ne détermine pas notre tempérament, mais oriente. Puisque l'homme naît de l'homme et du soleil. métaphysique, si toutes les réalités étaient des réalités artistiques, l'aïdos serait la substance. Petite remarque très intéressante. Si toutes les réalités étaient des réalités artistiques, et le livre de la philosophie de la nature montre que toutes les réalités ne sont pas des réalités artistiques. Elles sont des réalités artistiques pour le théologien, parce qu'elles sont créées par Dieu. Et créées par Dieu, elles sont faites par Dieu. Et Dieu est l'artiste parfait. D'une certaine manière, il est beaucoup plus que l'artiste, parce que Dieu ne regarde pas et ne termine pas son œuvre à la forme. Il la termine à l'être. Donc, à ce point de vue-là, il n'est pas un artiste. Il est plus qu'un artiste, il est un père. Et sa causalité regarde le point de vue de l'être, ce qui est unique. Causalité efficiente de Dieu regarde l'être. Parce que la causalité efficiente regarde en premier lieu le devenir. Et là, on a le devenir de l'artiste. Tout commence par l'eidos, causalité exemplaire, causalité efficiente. Aristote veut montrer l'au-delà de la connaissance artistique. Et l'au-delà de la connaissance artistique, c'est découvrir la phusis, découvrir la nature, qui est au-delà de la connaissance artistique. Comment découvrir cet au-delà de la connaissance artistique ? C'est découvrir que l'artiste se sert de la matière. Mais il ne la fait pas. Et donc, si je regarde uniquement la connaissance artistique, la matière sera toujours ce qui vient limiter, ce qui arrête, ce qui limite le point de vue de l'artiste. C'est sûr. Il faut donc découvrir l'au-delà. Et c'est pour ça qu'Aristote commence tout de suite par la différence entre le devenir artistique et le devenir naturel. Découvrir la différence qui existe entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. C'est la première différence. Alors, je vais vous renvoyer à Valérie, monsieur Test. Découvrir au bord de la mer ce qui est un caillou fait par l'homme et le caillou fait par la nature. L'érosion. L'érosion fait des choses étonnantes dans la nature. Vous savez, tu sais, quand on regarde dans la montagne, évidemment, ça met longtemps. L'érosion, 1000 ans est comme un jour. N'est-ce pas ? Ça met du temps. C'est vrai qu'on a des choses étonnantes quand on regarde le point de vue de l'érosion. Et quand on découvre des pierres, on se demande si ces pierres sont faites par l'homme ou sont faites par la nature. Et c'est pas commun du tout. L'archéologue est tout le temps à se poser la question. Est-ce que là, il y a le doigt de l'homme? Ou est-ce que c'est la nature? Tant qu'il découvre le doigt de l'homme, l'archéologue continue. Et quand il découvre la nature, il arrête. Ce n'est plus l'archéologue. Il ne va pas continuer ses fouilles dans la nature. Il fait les fouilles par rapport là où il y a le doigt de l'homme. La statue, la monnaie, une maison, tout. C'est très intéressant de voir ça. Mais au fond, l'archéologue se pose toujours la question, est-ce que c'est la trace de l'homme? Est-ce que c'est la trace de quelque chose qui n'est plus le point de vue de l'homme? Bon, c'est une question très importante. Quand je découvre ce qui est au-delà de l'homme, je découvre une réalité. Parce que je distingue tout de suite cette réalité mue du vivant. Le vivant, c'est celui qui se fait partie de la philosophie de la nature. Aujourd'hui, nous ne dirions plus ça. Je crois qu'aujourd'hui, on maintiendrait philosophie de la nature, philosophie du vivant. Il y a deux méthodes différentes. Ce n'est pas la même méthode. Aristote ne donne pas de méthode. Mais il y a la recherche des causalités. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'ordre différent de la découverte des causalités. Pour découvrir la diversité de ces recherches. L'ordre des causalités n'est pas le même en philosophie de l'art, en philosophie éthique, en philosophie politique, en philosophie de la nature, en philosophie du vivant, en philosophie métaphysique. Et ça qui est intéressant, parce que par là, je saisis l'ordre. Je vous ai dit hier, le propre du sage, c'est d'ordonner. Tant qu'on n'a pas saisi l'ordre de recherche, on tâtonne. Donc on n'est pas celui qui vraiment dit, voilà, le propre de cette connaissance est cela. Le mouvement est un sensible commun. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que l'expérience du mouvement est très commune. Je saisis le mouvement du vivant, le mouvement de la nature, le mouvement du travail. Le travail est un mouvement, c'est un devenir. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le devenir se présente à moi sous des modalités très différentes. Le devenir du travail. Vous avez l'expérience du devenir chaque fois que vous grattez sur un bout de papier. Vous prenez des notes. Vous avez l'expérience du devenir. C'est un devenir qui vient de vous. Et quand vous écrivez, vous êtes trop fatigué, vous n'arrivez plus à vous lire. Après, donc ça ne sert à rien. Les notes que vous prenez, indéchiffrables. Ça peut arriver, ça. Parce que j'ai pris ces notes à tel moment où je m'endormais. Je m'endormais à chaque ligne. Ça dégringolait. Donc, il y a un devenir du travail. Il y a un devenir qui échappe à l'homme. Le devenir de la nature échappe à l'homme. C'est un devenir caché. Ça, c'est propre de la nature. C'est ça, d'une manière terrible. Et c'est pour ça que la nature est si facilement occulte. Elle occulte tout. La nature. La nature cache ses orages, ses colères. Tout d'un coup, un orage arrive. C'est la colère de la nature. C'est la nature en orage. Alors, il faut saisir le caractère propre de ce qui émue. Et je dis bien de ce qui émue, pas du devenir, mais de ce qui émue. C'est ce qui intéresse le philosophe. Le devenir abstrait n'intéresse pas le philosophe. Parce que le devenir abstrait ne me fait rien comprendre du tout. Je ne sais pas si c'est le devenir du travail, si c'est la praxis. Vous voyez, la praxis, c'est le devenir abstrait, dialectique. C'est un devenir dialectique, la praxis, de Marx. Le devenir de l'artiste, du travail, le devenir de la nature. Ce qui émue, c'est celui-là que je constate, au-delà de tous les autres devenirs. Et je cherche... Puisque le philosophe essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce devenir ? Qu'est-ce que c'est que ce devenir ? Qu'est-ce qui caractérise ce devenir ? Vous voyez ? Pour saisir le devenir naturel, il faut chercher ce qu'il caractérise. De tous les autres devenirs, qu'est-ce qui caractérise ce devenir ? C'est son immanence. La nature est dans la nature. Et c'est ça qui est tout à fait propre à la nature. C'est pour ça. ça qu'on dit l'univers est un tout. Et c'est vrai, l'univers est un tout. Je ne peux connaître parfaitement cette petite terre que si je connais l'atmosphère. Et l'atmosphère est le fruit de toutes les galaxies. Il y a un tout. Et ce tout n'est pas une substance. C'est un jeu de relations. Et c'est pour ça que facilement, on aboutira à la relativité absolue. Je ne peux rien retirer de ce tout et l'isoler. Jamais. Il dépend toujours du tout. Et à ce point de vue-là, mon corps, puisque le philosophe s'intéresse toujours à l'homme, mon corps me fait partie de cet univers. Et mon corps fait que je suis dans l'immanence de ce tout. Et pourquoi l'enfant n'aime pas dormir? C'est parce que quand il dort, il se remet au tout. Je dépends du tout. Et c'est vrai. Quand un animal dort, il faut le piquer pour savoir s'il est vivant. S'il remue. S'il se meut. Et s'il se meut pas, il est parti du tout et retourné au tout. Et c'est le tout qui l'emporte. Qu'est-ce qui caractérise ce qui est mu? Qu'est-ce que c'est que ce qui est mu? Je pose la question. Alors, c'est évident que le mouvement naturel implique toujours une détermination. Donc je peux dire, la première chose que je saisis, c'est la détermination. C'est vrai. D'une certaine manière. Mais attention, parce que cette détermination n'est pas du tout comme celle de l'artiste. La détermination de l'artiste peut se comprendre indépendamment de la matière, puisqu'elle est l'idéa. Elle est premièrement idéa. Tandis que la détermination du mouvement naturel, donc la nature, elle est toujours immanente. Elle est dans la matière. Et c'est pour ça que je dis, ce qui caractérise la philosophie de la nature, c'est de découvrir la cause matérielle comme ce qui est l'immanence du monde physique. Le monde physique a cette chose très particulière, c'est qu'on est dans l'immanence. Et cette immanence implique des déterminations. C'est évident, la nature est déterminée. Mais la détermination de la nature ne peut jamais se séparer de la matière. Donc la distinction matière-forme, nature-matière-forme, a ceci de très particulier. À la différence du vivant, c'est que la forme est relative à la matière, et la matière est relative à la forme. Et c'est le propre de la nature, ça, d'être source, d'être, de devenir, dans l'immanence. Alors je peux dire, c'est très juste, de dire la nature est principe de mouvement. C'est vrai. Mais attention, Aristote montrera que le mouvement est la propriété de la nature, la conséquence. Donc ce n'est pas le mouvement qui va me faire comprendre ce que c'est que la nature, puisque c'est la propriété. Le mouvement manifeste, le mouvement c'est ce que j'expérimente, mais ce n'est pas le mouvement qui me fait comprendre la nature. Or, si je regarde le mouvement comme tel, je regarde tout de suite l'origine de ce mouvement, d'où il vient. Causalité efficiente, d'où il vient. Mais ce n'est pas cela qui me fait comprendre le caractère propre du mouvement naturel. Ce qui me fait comprendre le caractère propre du mouvement naturel, c'est le primat de la matière. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est sûr qu'Aristote ne montre pas de cette manière-là, mais nous, dans notre contexte, c'est ça qui fait comprendre la différence entre la recherche du philosophe et la recherche du savant. Le savant regarde le mouvement comme tel. Il ne regarde pas ce qui est mu, mais il regarde le mouvement. Et il essaie d'étudier le mouvement. Et il étudie en se servant des mathématiques, puisque là, on a l'avantage d'avoir un mouvement idéal. Tandis que le philosophe de la nature ne regarde pas le mouvement en premier lieu. Ça, c'est l'expérience. Mais il passe cette expérience pour chercher ce qui est mu, il l'appelle nature, matière, nature-forme. Et ce qui caractérise la philosophie de la nature, c'est que la matière est première. Alors, je vous rappelais à ce moment-là que lorsqu'Aristote regarde l'antériorité de l'être, l'antériorité de l'acte sur la puissance, Aristote dit cette chose très intéressante, que lorsqu'il s'agit du devenir, donc toute réalité qui est mue, la matière est antérieure, la puissance est antérieure à l'acte. Vous voyez ? Alors ça, c'est très important de comprendre ça. C'est que je ne comprends vraiment le mouvement naturel que si je comprends l'antériorité de la matière. Ça ne veut pas dire que la matière existe sans la nature-forme. Non. Elle existe toujours dans la nature-forme. Mais ce qui caractérise le mouvement naturel, c'est cette primauté, cette priorité de la cause matérielle sur la cause formelle. Ça, c'est unique. Dans le vivant, il y aura la priorité de l'âme sur le corps. Tandis que dans le monde physique, il y a priorité de la cause matérielle sur la cause formelle. C'est ce qui explique la corruptibilité. S'il n'y avait pas la priorité de la matière sur la forme, je n'expliquerais pas la corruptibilité. La forme serait toujours victorieuse. Donc il n'y aurait pas de corruptibilité. Le vivant lutte contre la corruptibilité. Et la victoire du vivant, c'est d'être au-delà de la corruptibilité. Tandis que le monde physique, c'est un monde corruptible. Le monde sublunaire, comme disaient les anciens, le monde sublunaire est un monde de corruptibilité. Et donc, ce qui caractérise le mouvement naturel, c'est d'être justement un mouvement dans lequel la matière est première. Et tant que je ne saisis pas cette priorité de la matière sur le point de vue de la nature-forme, je ne saisis pas ce qui caractérise le mouvement naturel. Oui, je crois que ça c'est très important pour nous. C'est très important de saisir ce point de vue fondamental. C'est pas commode. Parce que nous sommes, nous, tentés de regarder le mouvement en soi. C'est ce qu'a fait la scolastique. La scolastique n'a plus regardé le point de vue du jugement d'existence présent dans ce qui est mu. Ce qui est mu existe. Mais il existe d'une manière telle qu'il y a un primat de la matière. Notre monde corruptible, il y a une priorité de la matière. C'est pour ça que le monde corruptible, j'allais dire, c'est normal qu'il ait un commencement et un terme. Ça, on verra cette question-là ensuite. Parce que c'est une question très délicate. Pour Thomas d'Aquin, affirmer que le monde a un commencement et un terme, c'est la foi qui nous le dit. Ce n'est pas la philosophie. Alors posez-vous le problème. Il faudra se poser le problème. Mais au moins, comprenez cela, cette démarche que je fais. Ce n'est pas celle d'Aristote, je suis tout à fait d'accord. dans la ligne d'Aristote, mais elle veut distinguer d'une manière plus nette le mouvement naturel du mouvement vital et du mouvement artistique. Comprendre qu'il y a un mouvement fondamental qui est le mouvement naturel. Et dans ce mouvement naturel, la causalité efficiente est immanente. Donc elle est cachée. Je ne saisis pas, en premier lieu, la causalité efficiente dans le monde du physique. Ce que je saisis en premier lieu, c'est cette causalité immanente de la matière. C'est ça qui caractérise le monde physique. Or, c'est ce que cherche le philosophe, hein. Comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier dans notre monde physique. C'est cette immanence de la cause matérielle. Cette immanence de la cause matérielle risque toujours de l'emporter sur la forme. C'est les choses de la nature vieillissent. Elles se décomposent. On est obligé d'employer des quantités de produits pour empêcher que ça se décompose. Ça se décompose. Même la grotte de Nazareth se décompose. À Nazareth. Jusque-là, elle ne se décomposait pas. Mais on touche l'atmosphère actuellement d'une façon telle que les choses qui jusque-là résistaient ne résistent plus. C'est curieux, ça. C'est un des signes curieux que l'homme veut dominer l'atmosphère et créer une nouvelle atmosphère qui détruit la nature. C'est ce que je crois. C'est un des signes. Ah, l'autre jour, il y avait un article intéressant, scientifique, pas entièrement scientifique, constatation. On constatait que les années 94 et 95 étaient des années exceptionnelles vis-à-vis du désordre de la nature. Il y a un désordre dans la nature qu'on constate aujourd'hui qui dépasse tout ce qu'on a pu constater jusque-là. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant parce que ça a une influence sur nous, tu vois. Vivre dans un monde pollué et comprendre que cette pollution commence à toucher l'équilibre du monde, de notre petite planète. Parce que les galaxies, on ne les touche pas beaucoup. Elles sont peut-être atteintes, c'est possible. Qu'un beau jour, une montagne dégringole de la Lune. C'est possible, c'est possible. Quelle mesure le déséquilibre de notre petite planète va-t-il avoir une action sur les autres planètes et sur le Soleil? Sur les effets du Soleil, oui. L'atmosphère. Ça, c'est très vrai. Alors, cet article relevait toutes les catastrophes mondiales, donc le désordre. Ce fait que des périodes de chaleur touchent un maximum qu'on n'a jamais touché. Les périodes de froid, les orages, les tout, on prenait tout. Les cyclones. Un déséquilibre. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que dans un article qui se dit objectif, scientifique, d'une objectivité, ces désordres sont tels qu'ils ne s'expliquent plus par l'équilibre de la nature. Il y a donc une force étrangère à la nature qui peut seule expliquer ces cyclones, ce déséquilibre. Alors, quelle est cette force? Est-ce une force du mal? Est-ce une force du bien? Lisez la sixième trompette. Non. j'aurais envie d'envoyer à ce brave monsieur qui fait ça, regardez la sixième trompette dans l'Apocalypse, vous comprendrez. Dieu laisse un grand pouvoir aux anges désordonnés par leur orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui désordonne tout. Puisqu'il n'y a plus de finalité. Il y a un déséquilibre qui se fait. Ça, c'est une vision théologique. Le philosophe constate, et c'est assez beau, cette constatation, surtout dans le journal Le Monde, il doit y avoir une autre force. Et donc, au fond, le positivisme, qui veut tout expliquer par l'immanence de la nature et de la matière, est battu. Il y a des faits qui ne peuvent plus expliquer. Le comment n'explique pas tout. Il y a quelque chose qui n'est par le comment. Le hasard n'explique pas tout. Il y a quelque chose qui montre que il y a une force de désordre qui dépasse. Alors, cette force de désordre est possible parce que dans tout devenir naturel, il y a un primat de la matière. Le démon ne crée pas, mais le démon est un artiste. Un artiste très particulier, c'est l'artiste du désordre. Un art démoniaque, c'est un art du désordre, qui montre le primat du désordre. L'art qui défigure tout. Et ce primat du désordre attaque, voyez, Athènes, ruines sur du temple, des temples, ils commencent à être désagrégés. Alors on est obligé de lutter contre cette désagrégation, ce qui n'a pas encore existé. C'est très curieux ces choses-là, c'est quand même des petits phénomènes qui sont des signes. Il ne faut pas expliquer trop vite, ils sont des signes. Alors, philosophiquement, je regarde ça. Le mouvement naturel, ceux qui... Alors, n'oubliez jamais, hein, le philosophe regarde ceux qui émuent. Il ne regarde pas le mouvement. Il ne regarde pas le devenir. Comme le philosophe regarde ceux qui est. Il ne regarde pas l'être. L'être, c'est dans l'interrogation. Le devenir, c'est dans l'interrogation. Il regarde ce qui est mu. Eh bien, dans ce qui est mu, qu'est-ce qui est premier? C'est la nature matière. C'est ça qui explique fondamentalement ce qui est mu. Ce qui est mu est premièrement nature matière. Cette nature matière implique nécessairement la nature forme. Parce que ce mouvement implique des déterminations, implique des qualités. Mais ces qualités sont secondes. Elles ne dominent pas la matière. Elles ne sont pas victorieuses de la matière. Si elles étaient victorieuses de la matière, il n'y aurait plus de mouvement, il n'y aurait plus de corruptibilité. Tandis que là, il y a une corruptibilité. Et donc, il y a un primat de la nature matière sur la nature forme. Et la causalité efficiente n'est pas regardée en premier lieu. Puisque la causalité efficiente, visible, c'est dans le devenir artistique. Dans le devenir artistique, l'efficience est tout de suite donnée. L'artiste réalise une œuvre. Et par l'œuvre, je comprends tout de suite ce point de vue de la causalité efficiente. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la nature, la causalité efficiente est immanente. Elle est cachée. Je sais très bien que appelé un phénomène d'érosion. Je sais très bien que l'eau, lorsqu'elle coule indéfiniment sur une pierre, elle creuse la pierre. Causalité efficiente. L'eau. Et l'eau n'est pas la causalité efficiente. Puisque l'eau elle-même est en mouvement. C'est une causalité efficiente qui est en mouvement. Si l'eau ne tombait pas, elle n'aurait aucune efficacité. Elle tombe. Donc, le devenir. Alors, c'est le devenir qui appelle le devenir, qui engendre le devenir. La causalité efficiente de la nature est cachée, est très voilée. La première chose que je vois, que je constate, causalité matérielle, nature-matière, qui implique nature-forme, et parce que il y a nature-matière et nature-forme, il y a une causalité du premier sur le second, mais je ne le constate pas tout de suite, ça. Je constaterai après. Et puis je constate que la nature, elle est immanente, et donc elle aura une certaine finalité, mais une finalité immanente, pas une finalité extrinsèque. Ce qui fait que cette finalité n'est compréhensible que par la nature forme. Et c'est ça qui est tout à fait particulier à cette connaissance du monde physique, au plan philosophique, ceux qui émuent. Alors je crois que toutes les difficultés proviennent du fait qu'on ne regarde pas assez ceux qui émuent. Alors que c'est l'expérience que j'ai, première, fondamentale, ceci est mu. Non pas ceci est, mais ceci est mu. Non pas le mouvement, non. Le mouvement ne m'intéresse pas directement. C'est ce qui est mu qui m'intéresse. C'est la réalité existante qui est mu. Le mouvement n'existe que comme une propriété du monde physique. C'est une propriété, c'est donc quelque chose de second, c'est pas quelque chose de premier. La propriété est toujours seconde. Le mouvement naturel est très important, parce que comme propriété, il va m'aider de déterminer ce qu'il y a de fondamental dans la nature, ce qu'il y a de premier dans la nature, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui me permet de connaître ce qui est mu. Pour connaître ce qui est mu, je regarde la nature matière et la nature forme. Les deux causalités immanentes. La causalité de l'efficiente n'est pas immanente, comme la causalité finale. Donc, puisqu'elles ne sont pas immanentes, elles ne font pas connaître la réalité qui est mu. Le mouvement naturel qui est immanent. Le mouvement naturel est immanent. C'est un tout, la nature. Un tout dans lequel il y a un ordre et dans lequel il y a beaucoup de désordre. Puisqu'il y aura la victoire de la causalité matérielle qui maintiendra toujours un certain désordre. C'est très curieux que le monde physique implique un ordre par le point de vue de la détermination, mais il est source aussi de désordre. Alors, je peux dire, évidemment, ce qui est premier dans la connaissance de la nature, c'est l'ordre. C'est sûr. Surtout quand je regarde le ciel. Pour les anciens, c'est du sang. Et c'est vrai qu'il y a un ordre qui m'apparaît comme nécessaire dans le mouvement des astres. Mais dès que je suis dans le monde sublunaire, le point de vue du désordre m'apparaît tout de suite, la corruptibilité. Ce qui caractérise le monde sublunaire. Or, l'expérience que j'ai des astres est très faible. C'est ce que souligne Aristote quand il parle de l'astronomie. L'expérience que j'ai des astres est très faible. Je n'ai pas l'expérience du toucher. C'est une expérience lointaine. Donc extrêmement faible. Et parce que c'est cette expérience est très faible. Le point de vue de l'astronomie va faire appel aux mathématiques. Et ça, il y a une petite remarque là qui est très astucieuse. Quand l'expérience est faible, on fait appel aux mathématiques qui comblent. Et c'est un fait que quand je suis en face d'un monde matériel, quantitatif, je fais appel aux mathématiques qui donnent un ordre parfait dans l'ordre quantitatif, qui permet de saisir des relations nécessaires dans le monde mathématique. Là, je me servirai des connaissances mathématiques pour combler le désordre. Mais je crois, voyez, qu'il faut toujours bien comprendre que la nature forme et la nature matière sont toujours simultanées. Alors, je peux dire que c'est par la nature forme que je saisis la nature matière. C'est vrai, mais ne séparons pas. Comprenons que cette forme est saisie à l'intérieur de la matière. Et donc, d'une certaine manière, la nature matière est première génétiquement. Alors, je voulais vous rappeler ça, parce que ça me semble très important de bien saisir ça. Parce que c'est ce qui caractérise cette philosophie de la nature qui est très difficile pour nous. Parce qu'au fond, l'aspect connaissance est très enfoui dans la matière. Et la matière, par elle-même, a son intelligibilité. La nature matière a son intelligibilité. Mais une intelligibilité qui est très limitée. Je ne connais pas parfaitement l'intelligibilité de la matière. C'est en ce sens-là qu'il y aura toujours, dans la philosophie de la nature, quelque chose d'irréductible. Et ça explique comment Aristote mettra toujours dans cette connaissance de la nature, la plupart du temps, c'est comme cela où ça se passe. La plupart du temps. Ut in pluribus. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une nécessité absolue.